soir de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3.
Bonjour, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, donc 106.3 FM, il est 20h30, un peu dépassé de 5 minutes, l'heure de parler de notre avenir, et nous recevons aujourd'hui une représentante du réseau Sortir du Nucléaire, donc une occasion en marge de la catastrophe majeure qui se déroule en ce moment même au Japon, de faire un état des lieux sur le nucléaire, donc on est dans l'actualité, hein. Des choix faits par les pays occidentaux depuis 25 ans, des alternatives possibles, donc nous recevons aujourd'hui Opal Crivello, qui est représentante chargée de communication de Sortir du Nucléaire. Bonjour Opal.
Bonsoir.
Je suis Alexandre, je suis avec Laurence, qui est ma co-animatrice. Bonsoir Laurence.
Bonsoir.
Et nous recevons, comme invité musical comme à chaque fois, Lilia aujourd'hui, qui est une représentante aussi d'un groupe très sympathique de Polyphony World qui s'appelle Chet Nuneta. Bonjour
Bonsoir.
Lilia.
Bonsoir.
Et qui nous interprétera en milieu d'émission une chanson a cappella. Donc un exercice toujours très difficile dans ce studio qui n'est pas du tout équipé pour. Mais c'est toujours un moment très sympathique. Et Sophie qui est toujours dans la cabine. Bonjour Sophie, qui nous fait les grands signes. Donc bonjour, bonjour à tous. On commence comme c'est la tradition par la chronique de Laurence.
Alors pour cette troisième chronique transnationale, je vous propose de regarder comment l'Asie et plus précisément l'Inde fait face au désastre nucléaire japonais. Avant tout, je tiens à le préciser, il n'y a pas d'élection cantonale en Inde en ce moment. Et pourtant, de nombreuses voix s'élèvent pour remettre en cause le plan de développement du parc nucléaire indien. Ce pays, en boom économique, a besoin de beaucoup, beaucoup d'énergie. Et certains essaient de vendre le nucléaire comme une énergie, entre guillemets, propre. L'Inde prévoit donc de passer à 60 000 mégawatts d'ici à 2020, soit presque autant que la France aujourd'hui, quels qu'en soient les coûts et les risques. En décembre dernier, Nicolas Sarkozy, le super VRP d'Areva, est donc allé porter la bonne parole aux Indiens, accompagné d'Anne Lauvergeon. Areva, déjà présente en Inde, prévoit en effet de construire deux réacteurs EPR à Jaitapur, au nord de Bombay. Alors, la technologie EPR, d'abord, on en reparlera certainement avec notre invité de ce soir. On sait que ça ne marche pas vraiment, hein. Surcoût, retard à Flamanville et en Finlande, écroulement d'un toit, d'une annexe de la centrale de Flamanville en décembre sous le poids de la neige, technologie obsolète, risque accru de fusion du cœur, risque d'utilisation des déchets à des fins militaires, sans parler des risques d'attentats en Inde, qui en connaît beaucoup. Les écologistes indiens ont un argument supplémentaire contre la construction de Jataipur, un argument qui vient d'être tragiquement renforcé par le drame japonais. Jataipur se trouve en effet sur une zone sismique qui a connu pas moins de 92 tremblements de terre en 20 ans. Faut-il le rappeler, l'Inde a connu une catastrophe industrielle majeure à Bhopal sur le site d'Union Carbide, une compagnie américaine. Les victimes n'ont toujours pas été correctement indemnisées et l'usine continue à polluer. C'est une des raisons pour lesquelles la législation indienne s'est dotée d'une mesure visant à tenir pour responsable de catastrophes futures le constructeur d'une centrale nucléaire. Alors, les Américains et les Français ne sont pas contents du tout. Nicolas Sarkozy, lors de son voyage en Inde, a d'ailleurs publiquement mentionné le fait qu'il allait essayer de convaincre le Premier ministre de changer la loi. Areva ne va quand même pas payer les pots cassés s'il y a un tremblement de terre à Jaitapur et que sa centrale ne tient pas. Nous, les Français, on est comme ça, trop fort, on va chez les autres leur dire de changer leur loi sur le nucléaire. Quand il s'agit de droits humains en Chine, bon, on évite de se mêler des affaires des autres, hein, faut pas tout mélanger. Mais voilà, c'est ça, nous, les Français, on est trop fiers aussi, trop fiers d'avoir une technologie nucléaire qui résiste à tout. À se demander si Anne Lauvergeon, quand elle finit par reconnaître la gravité de la situation au Japon, ne le fait pas avec une arrière-pensée. Si Areva était aux commandes, on n'en serait pas là, quoi. Un argument commercial choc pour continuer à vendre nos cochonneries à l'étranger, y compris le MOX, ce truc ultra-inflammable qu'Areva a fourgué aux Japonais, mais dont Anne Lauvergeon, interrogée à l'Assemblée nationale, a refusé de parler. Bref, aujourd'hui en Inde, il y a un débat national sur le nucléaire et une coalition d'écologistes demande un moratoire immédiat sur tous les nouveaux projets de centrales. C'est un débat aussi très important en Chine qui vient de préconisé une suspension, au moins pour un an, des nouveaux projets nucléaires. En France, on n'en est pas là, on aime le nucléaire, c'est comme le camembert, c'est identitaire. Voilà, ce sera pour cette chronique de ce soir.
Merci Laurence, tu peux garder le casque si ça te fait plaisir. Non, c'est bon. Écoutez, très bien, merci pour cette chronique. Donc on reçoit aujourd'hui une représentante du réseau Sortir du Nucléaire. Donc je présente rapidement ce réseau. C'est un réseau d'associations de plus de 800 associations, toutes libres et indépendantes, qui regroupe plus de 30 000 individus et qui est financé exclusivement par les cotisations et des dons.
Exactement, voilà. On ne reçoit aucune subvention publique.
D'accord. Vous affichez en fait depuis combien de temps existe ce réseau ?
Depuis 1997.
Depuis 1997, donc depuis près de 15 ans, vous affichez un constat. Plusieurs constats. Il y a un risque croissant d'accidents majeurs, dû notamment au vieillissement des infrastructures.
Exactement.
Il y a un danger de l'accumulation des déchets radioactifs, hein, pour l'environnement, pour l'homme et pour la santé. Un risque pour la santé des pollutions radioactives, évidemment. Le nucléaire civil favorise également le développement du nucléaire militaire. Vous faites également le constat du coût prohibitif de la filière. Peut-être on aura l'occasion d'y revenir quand on parlera des technologies alternatives. De l'énergie. Et vous constatez également la puissance du lobby qui finalement va un peu à l'encontre d'un certain débat, puisque tu as ouvert le sujet là-dessus, Laurence. On parlera aussi de où on en est dans ce débat en France et en Europe.
La transparence.
Et vous constatez que la France est le dernier pays à miser sur le nucléaire. Voilà.
Exactement.
Donc bref, vous émettez différents souhaits d'arrêt des projets d'enfouissement des déchets, d'arrêt de retraitement des combustibles, d'arrêt des exportations d'électricité, de non-renouvellement du parc, de fermeture des réacteurs en fonctionnement, d'abolition et d'élimination des armes nucléaires et radioactives.
Exactement. Voilà. Vous avez tout
Je vous ai bien présenté ?
C'est parfait.
Très bien. Je vais pouvoir postuler au poste de responsable com. Donc, est-ce qu'on peut commencer par faire un petit point avec vous sur l'actualité chaude du moment ?
Bien sûr.
Un peu vu de. Bon, je crois qu'on a beaucoup d'informations sur ce qui se passe, enfin, à la fois beaucoup et peut-être filtrées.
Exactement.
Mais c'est intéressant d'avoir votre point rapidement sur qu'est-ce qui se passe là-bas à chaud.
Tout simplement, nos sources sont à partir des communiqués officiels, donc soit français, soit japonais, et également à partir des associations antinucléaires japonaises. Donc, selon les dernières informations, on n'a plus de système de refroidissement dans les 6 réacteurs et les piscines depuis 6 jours, en fait. Donc, depuis 6 jours, il n'y a plus aucun système de refroidissement.
D'accord. Mais alors, est-ce que les piscines sont vraiment vides ? Parce qu'il y a un doute sur cette question.
Donc, les piscines ne sont pas complètement vides. En fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que l'exploitant japonais, TEPCO, filtre absolument toutes les informations. Et il faut savoir qu'au Japon, il n'y a pas de laboratoire indépendant, comme en France, par exemple, avec la CRIRAD. Au Japon, il n'y a pas ça. Donc, ça veut dire que les informations de l'État proviennent exclusivement de l'opérateur.
D'accord.
Voilà. Donc, nous, les informations qu'on a, elles sont tout à fait parcellaires, mais comme tous les autres médias et autres associations ont. Aujourd'hui, à 22h14, à l'heure locale, parce que là, c'est la nuit actuellement au Japon, 22h14, heure locale, l'armée japonaise a interrompu l'arrosage du réacteur numéro 3 par 5 camions de pompiers en fin de journée, et donc 30 tonnes d'eau ont été envoyées. 30 tonnes d'eau, comme ça peut paraître énorme, mais quand on voit l'état des réacteurs, je ne sais pas si vous avez vu les photos, c'est absolument... c'est de la charpie, les réacteurs. Et en plus, il y a des forts vents qui poussent en fait l'eau vers le large. Et donc, du coup, sur les 30 tonnes d'eau projetées par les secouristes, on peut se demander au final combien de tonnes exactement arrivent dans les piscines.
Donc, vous dites que ça a été interrompu, c'est ça ?
Voilà, ça a été interrompu.
À cause de la nuit, en fait.
Voilà, c'est ça, exactement. Donc, il prévoit de continuer demain. Et le ministre japonais de la Science a annoncé à 21h20, heure locale, des niveaux de radioactivité 1000 fois supérieurs à la normale à 30 km de la centrale. Voilà, donc c'est quand même un aveu assez patent.
Donc là, l'évacuation, on en était à 20 ou 30 km ?
Alors, en fait, c'est 20 km évacuation, 30 km confinement. Donc, ils préconisent aux gens de rester confinés chez eux, pas d'utiliser climatisation, voilà.
D'accord. Et les Français sur place de Tokyo sont évacués ?
Alors, les Français sont évacués, après, c'est les Français qui décident aussi. Je sais qu'il y a à peu près encore 500 000, si je ne me trompe pas, Français sur place. Voilà, le gouvernement prévoit de leur envoyer des comprimés d'iode, mais voilà, il y a encore pas mal de Français sur place au Japon.
D'accord.
En particulier à Tokyo.
D'accord. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux ? Moi, ma première question, c'est par rapport au débat qui existe sur le nucléaire. Évidemment, on va profiter de cette actualité pour pour poser le pour et le contre du nucléaire. J'imagine que ça donne de la visibilité aussi à votre réseau.
Bien sûr.
Mais en même temps, en 86, il y a eu un autre accident. J'imagine que des débats, je m'en souviens plus trop, mais des débats ont dû avoir lieu. Est-ce que les débats aujourd'hui, en 2011, sont les mêmes que les débats en 86 et qu'il y a des choses qui ont changé
dans les attitudes
et dans les politiques?
Les débats en 86, ils n'ont pas trop eu lieu parce que le nuage, rappelez-vous, s'est arrêté à la frontière.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Le nuage quand même extraordinaire.
C'est quand même magnifique. Le nuage s'est arrêté pile à la frontière. Il est passé par l'Italie, par la Suisse, mais nous avons été épargnés. Donc non.
Est-ce qu'on n'a pas ce risque aujourd'hui en France qu'on soit aussi épargné par le débat parce que c'est pas la même technologie, parce que nous, on n'a pas de risque de tsunami, parce qu'ils sont déjà en train de nous dire que les problèmes de la centrale sont dus au tsunami et non pas au tremblement de terre.
Tout à fait.
Bon, peut-être on s'arrêtera là-dessus, mais est-ce qu'il y a des politiques ou même dans nos pays, les pays qui sont voisins, est-ce qu'il s'est quand même passé des choses depuis 86? Il y a des pays qui sont revenus en arrière du nucléaire, qui sont revenus.
Exactement, l'Allemagne est dans un processus de sortie du nucléaire et on voit que ça marche excessivement bien puisqu'il crée des milliers d'emplois et il développe les énergies renouvelables d'une manière exponentielle. Concernant le débat politique. Nous, au réseau, nous pensons que ça ne peut pas, ça serait impossible aujourd'hui d'éviter ce débat-là. Je veux dire, on a quand même, enfin là, ça va être les 25 ans de Tchernobyl au mois d'avril, donc coïncidence vraiment morbide. Voilà, on sait qu'en 86, il y a une désinformation complète, une opacité complète de l'information par rapport à ça. Suite à ça, il y a la CRIRAD qui s'est montée, qui était un laboratoire rappelons-le, un laboratoire indépendant de radioactivité avec des scientifiques dedans qui mesurent les taux de radioactivité partout en France, en Corse, en Vallée du Rhône, partout en France et à l'étranger également, à Tchernobyl, par exemple. Et je pense que les Français sont conscients également du risque. En France, nous avons 54 réacteurs. Les Français ne peuvent pas ignorer qu'il y a un risque. Alors certes, nous n'avons pas forcément des tsunamis, quoique des raz-de-marée peuvent être possibles. On a vu lors des tempêtes de 99-2000 qu'il y avait des réacteurs qui avaient été sérieusement endommagés et sérieusement accidentés. Voilà, encore une fois, au Japon, ce qui s'est passé, c'était un cumul des risques. Il y a eu un séisme, il y a eu un tsunami. En France, il peut y avoir une sécheresse, il peut y avoir une inondation, il peut y avoir un tremblement de terre. La vallée du Rhône est une région très, enfin, propice au séisme. Et puis le risque zéro n'existe pas, quoi qu'il en soit. Le Japon a prouvé qu'on ne pouvait pas prévoir tout. D'accord. Voilà.
Oui, depuis 35 ans, il y a les écologistes qui répètent que c'est drôlement dangereux, le nucléaire. Et on les écoutait très peu. Aujourd'hui, ils se font entendre et la réponse immédiate qui est faite par certains politiciens, c'est de les accuser d'instrumentaliser la crise et le drame que connaissent les Japonais. C'est un triple drame, à la fois le séisme, le tsunami et maintenant cette catastrophe nucléaire qui résonne d'autant plus fort qu'elle, derrière ça, il y a aussi Hiroshima et Nagasaki qui ont aussi nourri la résistance au nucléaire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a eu beaucoup de voix qui ont essayé de se faire entendre au cours des années, avec, il est vrai, de la part des lobbies, mais aussi des politiques, une espèce de consensus national sur le nucléaire comme la seule énergie possible, ce qui fait que la France a pris énormément de retard quant au développement des énergies renouvelables, alors qu'on sait très bien que c'est un fort réservoir de création d'emplois. Et on mentionnait tout à l'heure la faille qui se trouve dans la vallée du Rhône. Il y a aussi la centrale de Fessenheim en Alsace, qui non seulement est très ancienne, mais en plus qui se trouve sur une sismique. Il y a sortir du nucléaire, il y a quelque temps de ça, avait sorti un rapport d'EDF qui montrait qu'en fait, les centrales nucléaires en France n'étaient pas du tout à l'abri du risque terroriste, d'un risque du type 11 septembre. Mmh. Alors moi, je ne veux pas être alarmiste, catastrophiste, au-delà du nécessaire, mais il y a quand même une centrale nucléaire qui se trouve à peu près 110 km de Paris, qui est à Nogent-sur-Seine. Aujourd'hui, s'il y a le moindre problème sur cette centrale, qui a connu des incidents en 2007, l'Agence de sûreté nucléaire avait détecté des problèmes et souligné, je cite textuellement le rapport, un manque de rigueur dans les procédures de sécurité. Si demain il y a un souci à Nogent-sur-Seine, dont le premier réacteur a été mis en service en 1988, donc c'est encore une centrale qui est en fin de vie, entre guillemets, si demain il y a un problème, à Paris, en Île-de-France, qui compte près de 20% de la population française, qu'est-ce qu'on fait ? Le problème se pose comme aujourd'hui, il peut se poser à Tokyo, là, de manière extrêmement dramatique. Est-ce qu'on demande aux gens de rester chez eux et d'attendre que le nuage passe ? Comment fait-on pour évacuer une métropole comme l'Île-de-France ? On voit bien que c'est impossible. Alors, quel est le prix de l'énergie que nous consommons ? Qui n'est pas, on nous présente toujours le nucléaire comme le garant de l'indépendance énergétique de la France. On l'avait mentionné dans une chronique précédente. L'uranium qu'on utilise, il n'est pas extrait en France. Hein. Donc l'indépendance énergétique qui est garantie par le nucléaire, c'est un de ces grands mythes dont la propagande nucléariste nous a inondé depuis bien des années.
Alors qu'est-ce qui fait justement que la France a fait ce parti, ce parti pris du tout nucléaire, alors que des pays proches, alors évidemment on va dire c'est le lobby, etc. Mais enfin j'imagine qu'en Allemagne et dans d'autres pays, ils ont également des lobbies d'électriciens puissants. Alors pourquoi en France, qu'est-ce qui a fait qu'on a eu ce parti pris fort du tout nucléaire ?
Alors je dirais déjà que ça a été tout à la base, ça a été une volonté politique très forte qui remonte au général de Gaulle, qui était qui était vraiment convaincu que
qui voulait être garant de l'indépendance.
Exactement. Indépendance toute relative, hein, sachant qu'on importe la totalité de notre uranium de pays comme le Niger, comme le Gabon. Donc, sachant qu'en plus, on leur redonne au final 17% du prix de l'uranium. En fait, on leur reverse que 17% du prix de l'uranium. Donc, on les vole carrément. On leur vole leurs ressources. Ça crée des risques géopolitiques, c'est clairement du néocolonialisme, disons-le. Mais donc voilà, ça a été un choix dans cette période un petit peu encore un peu coloniale d'investir massivement dans le nucléaire. Et donc la France et les politiques ont mis tous leurs œufs dans le même panier en choisissant massivement le nucléaire. Alors après, il va y avoir aussi une approche sociologique dans le sens où on est dans un pays très tradition très jacobine avec toutes nos élites qui sont un peu endogame dans le sens où voilà, elles sortent toutes de l'ENA, leur volonté c'est de gouverner sur une grosse entreprise, une entreprise étatique. À l'époque, rappelons-le, il n'y avait pas encore de, enfin voilà, les entreprises étaient massivement privatisées. Les énergies renouvelables vont à l'encontre de ça, et je pense que pour les élites de notre pays, la volonté de garder la mainmise sur la production d'énergie est très forte également.
D'accord. Question, Laurence ?
Voilà, on voit que ça commence à bouger. Hein. Je crois qu'effectivement, les choses sont en train d'évoluer. Et heureusement, je dirais, on le voit parce que, par exemple, pour ce qui est de la fourniture d'électricité, aujourd'hui, on peut faire appel à Enercoop, qui est une coopérative qui fournit de l'électricité qui est produite par des énergies renouvelables. Ça, c'est une chose que n'importe quelle consommatrice ou consommateur d'électricité, ce que nous sommes toutes et tous, peut faire, c'est-à-dire devenir adhérent d'Enercoop et du coup s'assurer que sa consommation d'électricité ne sort pas d'une centrale nucléaire, ce qui est drôlement important. Alors, il y a
donc c'est quelque chose qu'on peut faire même en ville quand on est
tout à fait, tout à fait. Il y a,
alors, on change de fournisseur, quoi,
en fait. On change de fournisseur en fait. Hein, donc Enercoop, ça s'écrit Enercoop, ça se trouve très facilement sur Internet. De fait, l'électricité est un peu plus chère parce que depuis des années, en fait, il y a une sorte de dumping par le bas du prix de l'électricité nucléaire. Comme Opal le faisait remarquer, on ne paye pas le prix juste de l'uranium. Hein, donc, ce prix n'est pas répercuté sur la facture d'électricité et on subventionne, je dirais, le prix de l'électricité pour favoriser aussi cette filière du nucléaire. Alors, c'est vrai que quand on s'abonne à Enercoop, le coût du kilowattheure est un peu plus cher, mais en même temps, ça incite aussi à faire des économies. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans une grande détresse
énergétique. Ça veut dire quoi, un peu plus cher en termes de pourcentage ?
Alors, en termes de pourcentage, comme ça...
Je crois que c'est à 15% voilà. Plus cher.
Donc faire 15%
mais ça, c'est la
d'économie.
Même chose que la nourriture. Je veux dire, si on décide de manger bien et bio, on sait qu'on paye aujourd'hui un petit peu plus cher. Mais voilà, c'est un choix du consommateur. C'est quand même lui qui a le pouvoir. Et c'est, voilà, s'il veut faire ce geste et s'il veut prendre soin de sa santé, bah, il paye un peu plus cher, quoi.
Alors, pour beaucoup de consommateurs, c'est possible. Pour beaucoup d'autres, aujourd'hui, dans la situation sociale dans laquelle on se trouve, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se retrouvent dans une très grande précarité énergétique, hein, parce qu'ils sont logés dans des appartements qui sont très mal isolés. Et du coup, avec des architectes qui n'ont prévu que du chauffage électrique, donc ils se retrouvent avec des factures qui sont colossales et qui ajoutent à leur détresse financière. Donc essayons de prendre... Essayons juste de reprendre les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire se dire on peut tout à fait investir massivement dans des programmes de meilleure isolation des logements pour tout le monde, mais y compris pour les gens qui vivent dans de l'habitat social. Ça permettra de réduire considérablement leur facture d'électricité et ça permettra de rétablir un petit peu les choses.
Je me permettrai juste de rebondir sur ce que vous avez dit par rapport à Enercop. Il faut savoir que l'équivalent belge... Les Belges se jettent massivement sur donc l'équivalent belge d'Enercop, je ne me rappelle plus le nom exactement, parce qu'en fait, ce fournisseur-là qui a les tarifs les moins chers comparé à l'électricité normale. Donc, encore une fois, tout peut basculer. Encore une fois, c'est une question de volonté politique. Et si on n'avait pas toutes ces subventions, c'est évident que l'énergie renouvelable nous coûterait énormément, beaucoup moins cher que l'énergie nucléaire.
D'accord. Et la consommation d'énergie en France, est-ce que c'est surtout le chauffage individuel ou est-ce que ce n'est pas les industriels aussi ? Enfin, est-ce que quelqu'un sait répondre à cette question autour de la table ?
Alors, je vais tenter d'y répondre. Au niveau de la consommation électrique, on a un gros problème de construction à la base. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, on construit des maisons et des appartements, des logements sociaux, etc., de la même manière qu'on les construisait il y a 50 ans ou il y a 100 ans. C'est une aberration complète. On met des parpaings, on met une fine couche d'isolation et on dit que c'est bon. Il y a des constructions qui existent, qui ont été prouvées, qu'on peut, même dans un pays comme la France, on pourrait se passer de chauffage. Si la construction est faite de manière pensée et réfléchie, on pourrait se passer de chauffage l'hiver, tout en ayant une température très agréable l'été. Donc, encore une fois, c'est vraiment une question de volonté. C'est sûr que ça coûtera un peu plus cher à l'investissement, mais après, c'est un retour sur investissement qui est vraiment énorme.
Oui, bien sûr, on pense toujours à un coût à court terme. J'ai l'exemple d'un ami là, qui a créé une société de construction écologique, justement, et qui me faisait la remarque il y a quelques temps qu'en France, on a gardé l'habitude d'isoler les maisons par l'intérieur. C'est-à-dire que quand on veut isoler sa maison, on met de la laine de verre, en gros, la laine de roche, avec un placoplâtre à l'intérieur, alors que finalement, on est un des derniers pays à faire ça, parce qu'on a l'isolation, enfin, les méthodes d'isolation sont beaucoup plus efficaces quand on isole ses maisons de l'extérieur. En France, on veut continuer à avoir son crépi de l'extérieur, donc on continue à garder l'extérieur. Mais ça, c'est quelque chose d'assez... Enfin, je ne savais pas ça. Bon, je n'ai pas de maison, mais c'est assez intéressant quand même.
Et justement, de ce point de vue-là, on voit bien que tout ce qui est construction écologique, entre guillemets, en tout cas beaucoup plus respectueuse de l'environnement, avec des méthodes d'isolation aussi qui sont beaucoup moins polluantes, hein, parce que la laine de verre, on peut avoir beaucoup d'inquiétudes sur les conséquences sur la santé de ce type de matériaux. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une offre aussi qui est en train de s'élargir avec plein d'autres types d'isolants beaucoup plus naturels. Et on peut espérer, y compris dans le logement social, que ça va effectivement se diffuser. Mais encore une fois, il faut reprendre les choses à la base et plutôt penser les choses de manière globale plutôt que le prendre par le petit bout de la lorgnette, à savoir le prix sur la facture d'électricité. Une facture d'électricité, comme on disait, qui est une des moins chères en Europe.
Et commencer par voir les choses de manière globale, c'est commencer à dire faisons aussi des économies d'énergie.
Tout à fait.
Et ces économies d'énergie, par exemple, je prends un exemple, je ne sais pas combien, mais il y a des villes en France qui ont décidé d'éteindre leur éclairage la nuit. C'est quelque chose qui est important en termes d'économie d'énergie.
Alors, éteindre l'éclairage la nuit, il faut toujours balancer un peu les choses parce que, en fait, l'éclairage la nuit, c'est aussi dans des quartiers qui peuvent être un peu difficiles pour la circulation et notamment pour les femmes. Hein, c'est important pour une femme de pouvoir sortir et rentrer chez soi, y compris très tard. C'est aussi des conditions de sécurité qui sont importantes.
Oui, bien sûr, oui.
Mais il y a un moyen de baisser l'éclairage, de demander aussi aux commerçants qui éclairent énormément leur devanture, non pas pour des raisons de sécurité, pour faciliter des déplacements, mais pour des raisons de publicité, de marketing, de diminuer, d'éteindre leur vitrine la nuit. Également, de changer le type d'éclairage, d'éclairage public, ça permet de réaliser de grandes économies. En général, les villes, Paris vient de le faire hein, au sein d'un agenda 21, effectivement, ils peuvent baisser jusqu'à 30% la consommation d'énergie. Certaines villes ont fait ce travail-là aussi au moment de Noël, parce que tous ces jolis éclairages de Noël, ils sont aussi énergivores. Donc, il y a moyen, tout à fait, sans revenir à la bougie, hein, puisque c'est ce dont on accuse toujours les écologistes d'être passéistes, alors que je crois que le truc, justement, aujourd'hui, c'est de se dire que le nucléaire, c'est complètement obsolète. Notre parc, il a 20, 25 ans, pour beaucoup, hein, voire plus. La technologie EPR, elle est déjà quasiment obsolète avant même de marcher, et a priori, elle ne marchera jamais, hein, quand on voit ce qui se passe à Flamanville ou en Finlande. Et la France, il faut reconnaître aujourd'hui que la France a pris un retard considérable par rapport aux autres pays, y compris aujourd'hui la Chine, par exemple, hein, dans le développement des énergies renouvelables. Donc soyons modernes, soyons écologistes.
Quel beau slogan.
On va faire une petite pause musicale comme au milieu de chaque émission. Et on reçoit pour ça aujourd'hui une des membres d'un groupe que j'adore, qui s'appelle Chet Nuneta. Ça s'écrit en deux mots, hein, C-H-E-T, plus loin, N-U-N-E-T-A.
Oui, c'est ça.
Je ne me souviens plus de l'origine de ce nom. Ce n'est pas un anagramme?
Oui, c'est un anagramme. En fait, le nom était Enchantetu. Les Enchantetus.
D'accord.
Et puis la formation a changé, la direction aussi légèrement a changé. Du coup, il y a un nouveau nom. On a senti la nécessité de trouver quelque chose d'autre, mais d'avoir quand même un lien avec le passé, parce qu'il y avait un lien, il y avait quand même la polyphonie et le lien avec la tradition qui restait. Et du coup, voilà, il y a un anagramme qui est sorti. Et Chet Nuneta est resté. Parce que avant tout, on aimait bien ce son, ça sonnait bien à nos oreilles, et puis ça avait aussi une certaine cohérence avec notre démarche, parce que Nuneta en italien, ça veut dire petite grand-mère, et c'est souvent les grand-mères qui transmettent les chants traditionnels. Et Chet, c'est un son qui rappelle le son des percussions, et comme les percussions, c'est un élément qui a beaucoup, évoluer, c'est une des choses qui a pris plus de place par rapport justement au début. Voilà, du coup, c'est resté. Et puis, bon, la petite référence à Chet Baker, bien sûr, aussi.
D'accord. Alors, donc, on reçoit Lilia qui est le petit accent donc italien de ce groupe qui comporte aujourd'hui quatre chanteurs, enfin trois chanteuses et un chanteur.
Et un percussionniste.
Et un percussionniste, donc qui sont, si on devrait définir, dans la polyphonie world. C'est-à-dire à la fois des chants traditionnels et des chants plus récents, de différentes origines, d'Afrique, d'Amérique du Sud.
Il y a des chants composés, c'est-à-dire que par rapport au passé, dans le passé, le projet, c'était de prendre des chants du monde. C'était vraiment de se confronter à d'autres cultures, de voyager au travers de la musique, de plonger dans un chant, dans une langue, de travailler sur la voix aussi en passant par une autre tradition. Et puis, au fur et à mesure que le projet a avancé, on a trouvé d'autres manières de se rapporter à ça. Par exemple, de prendre des poèmes traditionnels et de les mettre en musique.
D'accord.
De partir de ce que nous sommes aussi, ici, maintenant, occidental, et de nous laisser toucher par d'autres traditions, par d'autres voix. Et du coup, dans cet album, par exemple, il y a un poème komi d'un peuple de Sibérie complètement oublié, une langue aussi qui est en train de disparaître, le komi, et qui a été mise en musique en se laissant porter par l'imaginaire qu'on a de ce peuple qui vit dans la taïga profonde, dans un froid et dans une obscurité presque permanente. Et voilà quoi.
Il est sorti ou il va sortir le deuxième album?
Le deuxième album, il va sortir en septembre 2011.
En septembre, d'accord. Donc un deuxième album qui va s'appeler
Pangea.
Angela, dont on écoutera un extrait tout à l'heure.
Ouais.
Vous êtes au Bataclan le 28 mars prochain en première partie des Têtes Raides, avec qui vous voyagez déjà depuis quelques années, puisque vous êtes sur leur label.
Oui.
Moi, j'ai eu la chance de vous voir il y a quelques années à la Maroquinerie.
D'accord.
Et je dois dire aux auditeurs qu'on passe un moment très, très positif, plein d'énergie, très gai. Je ne m'en ennuie pas du tout, hein, parce que la polyphonie, ça peut faire peur parfois à nos auditeurs, mais c'est vraiment un moment très agréable. On va écouter là, une chanson que donc, vous allez nous chanter toute seule, donc a cappella, dans ce studio qui ne ressemble pas du tout à un studio de musique et tout ça. Donc c'est vraiment un exercice difficile, donc vraiment merci. Et puis en fin d'émission, on écoutera une version donc, CD avec les autres chanteuses et chanteurs du groupe et les percussionnistes. Vous allez nous interpréter quoi là comme...
Alors là, je vais vous chanter un chant qui est dans ce deuxième album. C'est un chant napolitain, c'est mon dialecte d'origine, je viens de la région de Naples. Et c'est un chant qui parle des problèmes des poubelles.
D'accord.
Parce que voilà, c'est un chant qui parle de cette ville, Castellammare, où je suis née. C'est une ville qui est magnifique si on la regarde de loin. Il y a le Vésuve, il y a la montagne, et puis au milieu, il y a la mer, il y a Capri. C'est vraiment super beau. Et puis, quand on y arrive, on voit que tout est fourré de poubelles. Même, ils utilisent des déchets toxiques. La Camorra les récupère, les met dans les matériaux de construction. Il y a des écoles qui sont construites avec de l'uranium, de plein de déchets dedans. Et ils font des analyses dans le sang des étudiants. Ils trouvent tout ça dans leur sang. C'est vraiment aberrant. D'accord. Et il y a la complicité de ça, pas pour donner la responsabilité, mais c'est très peu connu. Mais en fait, les déchets toxiques, c'est aussi la France, l'Allemagne, d'autres pays d'Europe qui les envoient ici parce que la Camorra les prend pour... Un kilo de déchets toxiques, pour le transformer légalement, il faut 64 centimes. La Camorra, elle demande 8 centimes, avec la complicité du gouvernement italien. Tout ça se passe allègrement, sans aucune... Et donc, j'avais envie de parler de...
C'est une super idée.
de ça, parce que...
Peut-être qu'on vous écoutera après sur le sujet du nucléaire, parce que vous avez aussi des choses à nous dire, je crois,
sûr, en provenance d'Italie. Bien sûr, par rapport à l'Italie, c'est paradoxal ce qui...
D'accord, on vous écoute, elle s'appelle comment, cette chanson donc?
Alors, elle s'appelle Paradis Tangop. Ça veut dire paradis sans dessous-dessous. Parce qu'en théorie, c'est un paradis, mais... Là, c'est...
Eh bien, très bien, on vous écoute, c'est Lilia du groupe Chet Nuneta.
Castellammare, Castellammare, a stessa parola dolce amar, a notte scava in coppa spiaggi cammina senza coraggio. Stu sistema ha fatto un rammaggio, vota su nastu con terraggia. Ha già cresciuto a Castellammare, ha già cresciuto a Castellammare. Ha già cresciuto a Castellammare, ha puzzato sotto naso e chi lo sarno tutto sporcato un marolo per conserva vuoi san misca che schifet dell'ippello che ha conciato rin dall'acqua la gittata che la fede che la puzza tu macciro la marut e li cozzo rampavato ospital manna mannato. Ha già cresciuto a Castellammare, vuoi comare ca montagna fresca e bella, vuoi comare ca montagna fresca e bella, cama paro paraviso, paraviso e a lontano, vuoi se cagna mano a mano, sti bellezze so spregate, da monnezza nascuate, che buo fa magna gelata, e ma paro paraviso e a lontana. Voilà, c'était un petit extrait parce que faire de la polyphonie toute seule, c'est compliqué.
Non, mais ça donne un petit aperçu. Puis surtout quand on vous voit, bon, nos auditeurs n'ont pas la chance de vous voir, mais ça vit au niveau des gestes et tout ça. Enfin, merci beaucoup.
C'est une prérogative de notre projet, c'est-à-dire que pour nous, chanter, c'est chanter avec tout notre corps. Donc aussi, c'est une dimension scénique à laquelle on tient beaucoup parce que c'est aussi une manière d'entendre le chant.
C'est ça, c'est très énergique en fait, la manière dont vous chantez, la manière de ce que vous donnez au public.
C'est
positif, c'est l'énergie, ça bouge,
c'est
vivant quoi, c'est très vivant.
Bah, c'est ce qui nous plaît aussi dans les chants traditionnels. C'est qu'ils ont, on change de culture, d'une culture à l'autre, bien sûr, il y a beaucoup de caractéristiques différentes, mais ce qui est commun, c'est cette vie, cette vitalité qui s'exprime aussi beaucoup au niveau corporel. C'est pas un hasard que souvent les chants sont accompagnés de danses traditionnelles. Donc cette dimension corporelle pour nous est très, très importante.
Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Si vous restez avec nous sur l'Italie, justement, par rapport au nucléaire, parce que je sais que vous connaissez un petit peu le sujet.
Bien sûr. En Italie, figurez-vous, il y a eu un référendum en 87.
Donc là, il y a eu un débat, du coup, post-Tchernobyl.
Post-Tchernobyl, ça a vraiment incité les gens à dire ça suffit. Il n'y avait pas beaucoup de nucléaire en Italie, mais il y avait un projet de développer ça. Et du coup, il y a eu un référendum avec trois questions sur le nucléaire qui portaient, en gros, à basculer sur une autre forme d'énergie. Et l'Italie avait dit non au nucléaire. Et on voit bien l'état de la démocratie en Europe. Ce référendum, en fait, il n'a pas été vraiment suivi, notamment avec l'élection du gouvernement de Berlusconi, qui a malheureusement été réélu pendant plusieurs décennies. Là, ça fait longtemps qu'on se le coltine.
Et qui a réintroduit une politique nucléaire.
Et qui a donc réintroduit la volonté de cette fameuse idée d'indépendance énergétique et du coup de se mettre à construire des nouvelles centrales nucléaires. Et une des paradoxes, c'est que une de ces centrales nucléaires qu'ils voulaient construire, c'était justement dans la région de Naples, où il y a le Vésuve, il y a un volcan et on sait qu'il doit éclater. C'est-à-dire qu'il y a des études scientifiques qui montrent que la lave, l'acidité de la lave en dessous du Vésuve, elle est d'une particulière qualité. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je connais pas, mais on sait que c'est une explosion massive, énorme, qui va avoir lieu. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, ça, on ne peut pas le prévoir. Et du coup, construire une centrale nucléaire à 30-40 km d'une bombe atomique naturelle comme c'est le Vésuve, c'est quand même paradoxal. D'accord. Et puis l'Italie, vous savez bien, c'est vraiment un terrain très... Enfin, il y a beaucoup de tremblements de terre, très sismiques,
et là,
notamment...
Et il y a des réactions par rapport à ce qui se passe au Japon.
Il y a un débat, bien sûr, de faire un autre référendum. Et il va y avoir lieu un nouvel référendum en Italie qui demande aux Italiens oui ou non.
Ah, il est déjà prévu.
Oui.
D'accord.
Oui. Donc là, ça bouge aussi parce qu'il y a eu déjà un référendum et du coup, les gens sont ahuris que ce référendum il n'a pas été respecté. Et du coup, ils essayent de donner un autre...
Alors, si on devait aujourd'hui en France sortir du nucléaire, pour reprendre le nom de votre réseau, ça prendrait combien de temps? Ça prendrait combien de temps et ça prendrait quelle forme?
Alors, encore une fois, c'est une question de volonté. Dans notre réseau, en fait, on est plus de 800 associations. Et il y en a qui...
Tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet.
Voilà, exactement. Dans notre fédération d'associations, nous avons des anarchistes, nous avons des écologistes verts du gouvernement. On a vraiment beaucoup... Enfin, on a vraiment un ensemble de populations...
Des écologistes verts du gouvernement.
Ils sont bien cachés.
Ils sont bien cachés. Non, mais des groupes, par exemple, des groupes locaux.
Je les ai pas rencontrés. Hein.
Par exemple, des groupes locaux verts, écologistes et tout ça.
Donc, ils ne sont pas au gouvernement.
Non,
on l'aurait pas remarqué.
J'ai déjà fabulé, en fait. J'ai rêvé pendant 3 minutes
d'un coup. Je me suis prise à rêver. Je me suis dit, waouh ! En fait, tout cet enfumage sur le Grenelle de l'environnement.
J'ai anticipé sur 2012, en fait.
Ouais,
c'est ça.
C'est chouette.
Mais donc oui, très globalement, on a beaucoup de disparités au sein du réseau, et donc on les respecte parce que nous, à la base, notre raison d'être au réseau, c'est d'avoir une décision immédiate sur la sortie du nucléaire. C'est pas forcément d'avoir une sortie immédiate du
Bien
nucléaire.
Bien sûr, c'est une sortie progressive, quoi.
Exactement, c'est là toute la nuance. Donc, nous,
mais personne peut dire aujourd'hui on va sortir immédiatement du nucléaire.
Il y en a qui le disent.
Il y en a qui le disent. T'en connais, toi, Laurence, des gens comme ça?
Moi, je connais plein de gens. En tout cas, ceux que je connais le mieux, c'est les écologistes qui appartiennent à un parti qui s'appelle Europe Écologie Les Verts, enfin, qui est un mouvement parti. Et pour qui l'idée, c'est plutôt une sortie progressive du nucléaire dans les 25 ans à venir. Mmh. Et ça, on sait très bien que c'est tout à fait envisageable. Il y a eu un certain nombre de projections qui ont été faites, qui, encore une fois, prévoient à la fois la réduction de la consommation énergétique électrique et le développement des énergies renouvelables. Par exemple, il y a Virage Énergie dans le Nord-Pas-de-Calais, qui a fait ce genre de prévision. On sait très bien que c'est tout à fait réalisable.
En revanche, réalisable. Demande aussi, c'est l'arrêt immédiat de centrales qui aujourd'hui présentent des risques majeurs de sécurité, notamment Fessenheim.
D'accord. Tout à fait. Par sa localisation sur une zone sismique.
Par sa vétusté aussi, là au mois de mars 2011. Pardon,
d'accord. Et qu'est-ce qu'on répond à Anne de chez Areva qui nous dit le problème au Japon, c'était pas le tremblement de terre, c'était, puisque les centrales ont résisté au tremblement de terre, c'est le tsunami qui a suivi. Et en France, on n'a pas de problème de tsunami.
Alors, le nucléaire, moi, je dirais, je laisserai Opal répondre tout à l'heure, mais moi, je dirais que ce qui caractérise le nucléaire, finalement, c'est la réaction en chaîne. Hein. Je trouve que c'est drôlement difficile de dire, ensuite, de séparer dans une chaîne d'événements ce qui amène à une situation dramatique aujourd'hui. Sur ce qui est des failles, sur la question des failles, de fait, tout en haut de la vallée du Rhône, il paraît difficile d'avoir un tsunami. Cela dit, on sait très bien qu'on peut avoir des tremblements de terre très importants. Et on sait très bien que les centrales actuelles ne résisteraient difficilement à des tremblements de terre d'une forte amplitude sur l'échelle de Richter.
Oui, et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a d'autres risques. Il y a des risques d'attentats
aussi.
Et qu'on est sur des technologies qui sont très sensibles.
Il y a plein d'incidents tout le temps. Il y a un vrai souci de transparence, c'est-à-dire qu'on apprend les... Je me souviens du Tricastin, hein, c'était en 2008, donc très récemment. En fait, les habitants de la région ont été avertis plusieurs heures, voire plusieurs jours après que l'incident majeur ait eu lieu. Donc là, on voit bien qu'on ne peut pas faire confiance à ce qu'on nous raconte. C'est un petit peu simpliste de dire les choses comme ça, mais on est depuis tant d'années confronté à une culture du mensonge que tous ces discours sur la pseudo-sûreté du nucléaire, on sait très bien qu'on ne peut pas les croire. Encore très récemment, il y a un train de déchets nucléaires qui a traversé la France, qui a emprunté les voies du RER. Mais est-ce que ça a été annoncé? Est-ce qu'on l'a su? Non, tout ça se fait dans une culture du mensonge et de la dissimulation.
Et même les employés de la SNCF ne sont pas forcément au courant non plus. Il y a des changements d'horaire au dernier moment. Enfin, c'est un petit peu... Mais encore une fois, on se retrouve dans une forme d'arrogance technicienne où voilà, les ingénieurs sont dans leur petit monde d'ingénieurs spécifiques sur le nucléaire, de techniciens, etc. Et donc, ils estiment que c'est leur monde privilégié et que nous, pauvres Français, nous ne comprenons rien. Et c'est vrai qu'à la base, la technologie nucléaire, c'est quand même quelque chose d'assez complexe, assez fouillé. Il faut prendre un petit peu le temps de comprendre. Mais est-ce que
dans les prochaines années, on peut vraiment remplacer le nucléaire par des énergies renouvelables? Ou est-ce qu'on va remplacer par des énergies qui sont elles-mêmes émettrices de CO2?
Mais moi, je rêverais d'un jour où tous ces ingénieurs du nucléaire qui sont elles et ils des cerveaux brillants, qu'ils consacrent toute cette matière grise à développer d'autres énergies. Ce qu'on n'a absolument pas fait en France, c'est-à-dire qu'on a fait une croix sur tout ce qui était énergie alternative. Aujourd'hui, il y a des plans de développement de l'éolien, même si ça a été freiné, encore une fois, par le gouvernement qui fait un pas en avant, deux pas en arrière sur toutes ces questions.
Comment il justifie de freiner ça, le gouvernement ?
Non, mais juste pour finir, excuse-moi Alexandre, juste pour finir là où je voulais en venir, en ce moment il y a beaucoup de débats sur les éoliennes et on entend des gens dire oui non mais les éoliennes ça défigure le paysage hein, par exemple. Alors moi franchement je suis née pas très loin de Nogent-sur-Seine, hein, la grosse centrale qui jouxte l'Île-de-France. Je ne trouve pas que ce soit une vision magnifique dans le paysage. Hein, deux grosses tours qui émettent des panaches de fumée blanche. En termes de défiguration du paysage, en tant qu'écologiste, personnellement, je préfère des champs d'éoliennes. Hein. Donc là-dessus, on voit bien qu'on est resté dans des discours... passéiste, hein, vraiment, avec cette fascination pour la technicité. Mais moi, encore une fois, je rêve que tout ce savoir-faire français, dont on a raison d'être habité par une certaine fierté, transférons toutes ces compétences, toute cette expertise vers le développement d'énergie réellement
propre.
Non,
mais c'est évident qu'on a depuis 30, 40 ans investi des montagnes d'argent et de ressources grises pour un seul type une seule catégorie d'énergie. Et qu'on pourrait faire la même chose dans les 25 prochaines années pour des énergies plus renouvelables. Le message est quand même assez facile à comprendre, finalement.
Et en plus, aujourd'hui, moi, ce que je trouve aussi extrêmement grave, c'est qu'on base beaucoup de notre politique étrangère et de notre richesse intérieure sur l'exportation de ces techniques qui sont extrêmement dangereuses, mortifères. Et on le voit en Inde, mais on l'a vu en Libye aussi, qui aujourd'hui vit une crise extrêmement grave et une révolte qui, malheureusement, a l'air d'être réprimée dans un bain de sang par Kadhafi, à qui Nicolas Sarkozy est allé vendre un réacteur nucléaire il y a 3-4 ans. Donc aujourd'hui, notre politique étrangère, c'est aussi notre excellence française, c'est plus défendre les droits humains, c'est plus défendre des idéaux de liberté, d'égalité, mais c'est aller vendre des réacteurs nucléaires un peu partout. Je pense qu'on a raison d'être fiers d'un certain nombre de choses qu'on a portées historiquement dans la culture française. En revanche, revoyons un peu les choses sur le plan du nucléaire.
Alors, je voudrais revenir sur des campagnes de communication qu'on a vues assez récemment des grands producteurs énergétiques français qui, eux aussi, se vendent de développer les énergies renouvelables. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la réalité ? Parce que quand on voit le dernier spot d'Areva...
Déjà, rien que la communication que ces opérateurs effectuent, ils n'ont rien à gagner à faire une communication. Ils n'auront pas plus de ventes, etc. Parce que, de facto, ce sont les seuls fournisseurs avec EDF d'énergie.
Mais est-ce qu'ils font vraiment une recherche sur les développements durables sur les énergies renouvelables, pardon ?
En fait, leur gros credo aujourd'hui, le réchauffement climatique, pour eux, ça a été une aubaine incroyable. Parce que, justement, grâce au problème du réchauffement climatique, ils pouvaient vendre l'énergie nucléaire comme une énergie décarbonée. C'est la raison, pour laquelle...
Dans le spot, on voit bien qu'ils ont mis l'énergie nucléaire au même titre que les autres.
Exactement. Pour eux, c'est une énergie propre. C'est la raison pour laquelle, par exemple, Areva a mis la main sur tous les sports décarbonés comme la voile, comme l'athlétisme. Récemment encore, Areva a financé les championnats d'Europe d'athlétisme à Bercy. Et c'est vrai qu'Areva se rachète une image sur le dos du sport français, du sport décarboné, et également sur le dos du réchauffement climatique, l'énergie nucléaire, c'est une énergie propre et renouvelable. C'est complètement faux.
Sur le dos des contribuables aussi.
Exactement.
Hein, parce que c'est un spot qui a coûté extrêmement cher.
20 millions. 20 millions rien que
pour
le spot.
Et globalement, ce sont les contribuables français qui l'ont financé.
Tout à fait, parce que 90% du capital d'Areva est financé par l'État français.
Mais on peut supposser qu'ils font quand même des recherches sur ces énergies renouvelables quand même.
Ils sont obligés de diversifier un petit peu aujourd'hui, d'abord pour des questions d'image, mais aussi parce qu'ils sont peut-être plus intelligents que certains politiques qui nous gouvernent, et ils ont bien compris qu'à un moment, il va falloir, face à la crise d'énergie, diversifier les ressources en énergie.
Et puis, il faut savoir aussi que les lignes THT très haute tension, par exemple, ça leur coûte beaucoup d'argent. De transporter l'énergie, en fait, c'est quelque chose qui leur coûte énormément, parce que la déperdition d'énergie est énorme. Donc, à la base, par exemple, on va avoir 100% de production d'énergie dans la centrale. Et au final, au foyer du consommateur, il n'y aura que plus que 25%, parce que dans tout le processus de production et d'acheminement de l'électricité, aura mangé énormément de calories. Donc je pense que c'est également la raison pour laquelle ils souhaitent se diversifier et créer un réseau alternatif. Mais c'est une communication complètement honteuse. D'ailleurs, le réseau a porté plainte auprès du jury, je ne sais plus comment également, le jury de la publicité, je ne sais plus également exactement son nom. Il y a d'ailleurs eu un non-lieu, mais c'est une communication totalement honteuse et erronée. Enfin, c'est vraiment induire les Français dans le mensonge. Donc quand c'est une communication erronée, quand c'est de la publicité mensongère sur une lessive ou sur un chewing-gum, ça passe encore. Quand c'est sur l'énergie nucléaire, je pense que les Français, c'est important qu'ils soient au courant.
Mais alors, comment on va faire pour que dans 15 jours, il va y avoir les élections cantonales dans quelques jours, ensuite, il y aura le retour ou non de DSK. Enfin, on va trouver plein de sujets dans l'actualité qui vont nous faire oublier rapidement le problème du nucléaire. C'est comment on va faire pour que dans quelques mois, ça, on n'ait pas le problème de la patate chaude
C'est notre raison d'être aussi. On a un an des échéances des élections présidentielles. Ben voilà,
ma question, c'est comment on peut mettre la pression aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre la pression sur ce débat électoral qui va avoir lieu et qui est vraiment des...
Je pense que nous pensons au réseau que la seule manière de mettre la pression sur les politiques, c'est de leur faire miroiter les répercussions électorales. Par exemple, Mme Merkel, qui est une pro-nucléaire convaincue, etc., s'est bien rendue compte qu'elle était un petit peu dans la mouise ces derniers temps au niveau des sondages et des opinions favorables. Son capital sympathie s'est écroulé. Et donc, elle a eu la réaction très intelligente, ses conseillers, je pense, l'ont très bien orienté, de faire un moratoire sur les centrales nucléaires obsolète. C'est une visée purement électoraliste. D'accord. N'empêche qu'elle l'a fait.
Mais c'est un moratoire de 3 mois finalement en Allemagne.
Non, parce qu'elle est revenue en fait sur. Elle, en fait, il y avait. L'Allemagne avait engagé un processus de sortie du nucléaire. Angela Merkel était revenue dessus et là, elle fait un retour en arrière en fait, en se rendant compte de l'effet certainement sur l'opinion publique. Et donc du coup, elle propose un moratoire de 3 mois pour revenir un petit peu sur ses prises de position qui étaient plutôt en faveur du nucléaire.
Tout à fait. Mais c'est vrai que la population allemande est très sensibilisée à ces questions-là aussi. C'est une population qui est plus écologiste que les Français globalement. Mais après, je pense que les Français se rendent compte aussi des évolutions des choses, de la planète. Je pense qu'il y a une prise de conscience écologiste qui est en train de monter dans la population française. Mmh. Et je pense que les politiques en sont conscients aussi et savent qu'il y a un moment ou un autre, ils devront faire des choix par rapport à ça.
Oui, il faut juste éviter que ça devienne juste un instrument de récolte de suffrage, quoi, et que ça s'arrête là et que les politiques ne deviennent pas des actions après, quoi.
Alors l'idée, c'est aussi d'inscrire des choses dans des accords programmatiques. Aujourd'hui, l'UMP, en tout cas le président de l'UMP réel, qui se trouve être le président de la République, puisque à chaque fois qu'on l'entend, il dicte la politique menée par le parti, il est très clairement toujours sur les positions de défense de la filière nucléaire. Encore aujourd'hui, face au drame qui se déroule au Japon et qui, espérons-le, n'ira pas plus loin dans ses conséquences dramatiques, mais c'est vrai qu'on peut toujours craindre aujourd'hui une évolution terrible de la situation. Du côté de l'UMP, en tout cas de manière majoritaire, j'ai entendu ce matin Christian Jacob, qui est le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, qui n'a pas bougé d'un iota sur ses positions, qui est pro-nucléaire, c'est comme ça, qui défend le nucléaire comme une énergie propre, la fierté de la France, etc. Là-dessus, on voit bien qu'il va être très difficile pour ce parti-là de jouer cette carte pour récolter quelques suffrages que ce soit. Du point de vue des écologistes en tant que force politique, l'idée, c'est aussi de faire peser dans d'éventuels accords programmatiques avec la gauche, donc avec le Parti socialiste, une sortie progressive du nucléaire, sachant que le Parti socialiste est énormément très très divisé sur la question. On ne parle même pas du Parti communiste qui, jusqu'à présent, très majoritairement est en faveur de la filière nucléaire. Donc on voit bien autant à droite, c'est un sujet de clivage mais qui est périphérique, autant à gauche, on voit bien qu'il faut qu'il y ait beaucoup de discussions là-dessus.
Eh bien, excellente conclusion, Laurence. Il faut continuer à discuter et continuer à se battre. On va interrompre cette émission. Une petite question de Sophie. Tu veux parler, Sophie? On t'écoute.
Non, avant d'interrompre, vous m'entendez là?
Oui, on t'entend.
Je me sens complètement isolée derrière le bocal. peut-être avant de... Je te laisse peut-être finir. Moi, j'ai deux petites informations.
On t'écoute,
sur l'agenda écolo.
Ah, l'agenda écolo de Sophie, on t'écoute, il n'y a pas de problème. Rapidement, parce qu'il est 30.
On est bientôt le printemps, donc ce que je vous propose, c'est les festivals qui éclosent sur l'écologie. Le premier, ça se passe à l'Île-Saint-Denis, c'est le festival d'écologie urbaine et populaire. Il s'appelle Effet de serre. Il y a un joli jeu de mots, serre, cinéma, écologie, résistance. C'est le 18, 19, 20 mars, Centre culturel Jean Villard à l'Île-Saint-Denis, 3 jours de cinéma, de débat, 2 thèmes. Alors, le premier est intéressant, une économie mondiale solidaire est-elle possible ? 2e thème, la ville en transition. On se filme, 7 débats, passe 3 jours, 3 euros. Je pense que ça va. 2e festival, ça se passe à Vanves. C'est un peu plus tard, c'est du 26 au 31 mars. Festival cinéma écologie au théâtre du lycée Michelet et au cinéma municipal à Vanves. C'est organisé par la ruche de Vanves et puis par la MAP, le panier vanveien. C'est intéressant. Toutes les infos sur laruchedevanves.fr, voilà. Voilà. Je voulais juste avoir le mot de la fin, en fait.
Eh ben, bravo, Sophie, merci. Donc, je rappelle que l'émission est rediffusée demain à vendredi à 11h, que vous pourrez l'écouter également sur le site zoomecologie.net, que vous pouvez nous adresser des mails zoomecolo3@gmail.com. Merci infiniment à nos invités, donc Opal Crivello de Sortir du Nucléaire et Lilia du groupe Chat Luneta. Merci à Laurence, à Sophie. On se retrouve.
Merci. Alexandre,
eh ben,
merci
avec, de m'avoir invité. Avec plaisir. Et puis, pour conclure cette émission, nous écoutons donc le premier titre du prochain album de Chet Luneta qui s'appelle Commis et qui sortira au mois de septembre prochain, à la rentrée prochaine. Et je rappelle que le groupe Chet Luneta est en concert au Bataclan le 28 mars prochain en première partie des Têtes Raides, si ce n'est pas déjà complet, ce que je crains peut-être à vérifier. C'est parti. Jujut parma sulală, ilin ilin voi vilin. Jujut parma sulală, parma peste șuvgăvăr. Găcit fătă șutiela, parma peste șuvgăvăr. Găcit fătă șutiela, parma peste șutiela. Parma peste șutiela, parma peste șutiela. Parma peste șutiela, parma peste șutiela.